Carrefour.
Quand vous me dites...
Ah, moi je l'ai toujours dit, dans la vie, il n'y a pas de mal à se faire plaisir.
Eh bien, ça me donne envie de vous dire qu'il y a 68% de remise immédiate sur le deuxième produit Durex acheté. Et c'est valable sur tout Durex. Du coup...
Oh, ben comme ça, tout le monde est content.
Et c'est jusqu'au 7 juillet, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Dispositif médical, pour plus d'informations, consultez la notice.
Vous écoutez
RMC.
6h31.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La justice des mineurs ouvre ses portes à RMC ce matin pour l'audience d'un jeune émeutier. Un an, jour pour jour, après la mort du jeune Naël à Nanterre. Nouveau débat avant le premier tour des législatives ce soir. Mais s'il y a bien un duel télévisé qui attire toute l'attention, c'est celui entre Joe Biden et Donald Trump. Et puis d'autres retrouvailles à l'Euro, celle-ci. La France retrouvera la Belgique lundi en huitième de finale.
Un an, jour pour jour, après la mort de Naël à Nanterre, l'enquête se poursuit.
Pour tenter de définir la responsabilité du policier qui a tiré sur le jeune homme lors d'un refus d'obtempérer, une reconstitution a eu lieu sur les lieux du drame au début du mois de mai. Et en parallèle, la justice, elle, continue son travail pour juger les émeutiers. On estime qu'ils étaient près de 50 000 au cours des 7 nuits d'émeutes urbaines qui ont secoué le pays. 50 000, dont beaucoup de mineurs. Alors pour l'occasion, RMC vous emmène ce matin dans le bureau d'un juge des enfants au tribunal de Bobigny, où un jeune de 15 ans a été jugé pour violence sur des policiers. Un document RMC signé Marion Dubreuil.
Adèle a été jugée coupable en novembre dernier pour le jet d'une bouteille sur des policiers pendant les émeutes.
Bonjour madame, bonjour monsieur.
Six mois plus tard, l'adolescent et sa mère sont de nouveau convoqués chez le juge des enfants, cette fois pour connaître la sanction.
Madame et monsieur, en face de moi.
Pas de robe noire, voilà, ni de prétoire, mais un petit bureau.
Qu'est-ce que vous souhaitez dire aujourd'hui par rapport à ces faits?
Que je regrette, que j'ai compris qu'on pouvait pas faire justice à nous-mêmes. C'était bête.
L'effet du groupe.
Voilà, c'est ça.
Le juge des enfants, Jean Mesure, avait demandé qu'Adèle soit suivie par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse pour l'aider dans son parcours scolaire. Mais faute de moyens, il n'en a jamais rencontré.
Alors on va faire un peu le point sur votre situation personnelle, monsieur.
J'en ai bien instruit, mais je ne veux plus trop parce que ça ne m'intéressait pas.
Qu'est-ce que vous souhaitez faire, vous, du coup?
Moi, de la carrosserie.
Pour la maman, comment ça se passe actuellement à la maison, alors?
Ça se passe très bien. Mais là, il a un rendez-vous pour une alternance le 17 juin.
Comme pour une audience classique, l'avocate d'Adèle, maître Pauline Bouvet, plaide pour sa défense.
Et je vous donne la parole, maître.
Compte tenu de l'ancienneté des faits, du fait que ce soit un primo-délinquant, qu'il n'y a pas de partie civile, moi je vous demande, monsieur le juge, de le dispenser de toute mesure dans cette affaire.
Finalement, le juge des enfants se contente de lui donner un simple avertissement judiciaire.
Cette condamnation, elle vise les actes de violence qui ont été posés sur des fonctionnaires de la police nationale. Ce qui est visé, c'est pas le fait d'avoir des opinions politiques quand on a votre âge, parce que ça c'est très bien, mais la manière d'exprimer ces opinions politiques, ça doit toujours être exclusif de toute violence.
Une mesure symbolique pour cet adolescent qui n'avait jamais été arrêté auparavant et qui n'a commis aucun délit depuis un an.
L'audience est levée.
Marion Dubreuil du service police-justice d'RMC que vous retrouverez à 7h10 plus en longueur sur cette justice des mineurs qui sera en temps normal à huis clos. Une marche en hommage du jeune Naël se tiendra samedi après-midi à Nanterre. Et la menace de nouvelles violences urbaines plane désormais sur les élections législatives et ce dès le premier tour dimanche. C'est ce que craignent les services de renseignement. En tout cas, il y en a une qui semble confiante. C'est Marine Le Pen qui pense obtenir la majorité absolue. C'est ce qu'elle a dit dans un entretien au Télégramme. Il y a une petite phrase qui retient toute l'attention ce matin. La patronne du Rassemblement National rappelle que le titre de chef des armées du président, eh bien, n'est qu'un titre honorifique et que c'est bien le Premier ministre qui tient les cordes de la bourse, ce qui pose question sur le soutien à l'Ukraine. Mais il y a une autre voie, selon le candidat Horizon à Paris, Pierre-Yves Bournazel.
Je pense qu'il faut donner des perspectives d'avenir pour les Français qui ne veulent pas du RN, qui ne veulent pas de la victoire de l'extrême droite et qui ne veulent pas en même temps être l'otage de LFI. C'est ça la réalité. Et il y a un espoir qui n'est pas simple à porter, mais un espoir. C'est qu'on crée les conditions d'une coalition possible à l'Assemblée nationale qui permettrait de rassembler des gens de bonne volonté, issus de la droite républicaine, issus de la social-démocratie, issus des différents partis du centre, pour éviter le RN, pour éviter l'extrême droite et éviter que le Front populaire soit l'otage de LFI.
Et un nouveau débat va se tenir ce soir sur France 2 avec Jordan Bardella, Gabriel Attal et cette fois Olivier Faure du Parti Socialiste pour représenter le nouveau Front Populaire.
Un autre débat très attendu celui-ci.
Joe Biden versus Donald Trump. À moins de 5 mois de l'élection présidentielle américaine, les deux candidats au coude à coude dans les sondages débattront en Géorgie. C'est l'un des états les plus disputés de l'élection. Antoine Hollard, correspondant d'RMC aux États-Unis. Tout a été fait pour éviter la cacophonie du dernier débat il y a 4 ans.
Oui, et pour éviter les débordements, d'abord, il n'y aura pas de public. Interdiction, par ailleurs, de se couper la parole. Les micros des candidats seront coupés quand ça n'est pas à leur tour de parler. Alors, les deux hommes se préparent. Très studieux pour Biden. Il s'est enfermé pendant une semaine. Il fait de faux débats avec quelqu'un qui joue le rôle de Trump. L'ancien président, de son côté, se contente de lire des fiches. Tout l'enjeu pour lui, ce sera de garder son calme. Il y a 4 ans, Trump avait été très agressif, ça l'avait desservi. Alors les attaques ont quand même déjà commencé. Trump dit que Biden sera dopé ce soir, qu'on va lui faire, je cite, une piqûre dans les fesses en guise de remontant. Ça donne le ton, mais c'est vrai que pour Biden, le défi, ce sera de montrer à l'Amérique qu'il est apte à faire un nouveau mandat, malgré son âge, 81 ans, et les doutes sur ses capacités physiques et mentales.
6h36, ce sera donc la Belgique, le prochain adversaire de la France à l'Euro pour les huitièmes de finale lundi. Des Belges toujours très remontés après la défaite qu'on leur a infligée en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Mais des Belges qui ne sont pas au mieux de leur forme, Florent Germain.
Oui, en tout cas, la Belgique fait comme la France, qualifiée mais critiquée et surtout sifflée par ses propres supporters, car les Diables Rouges se sont contentés d'un triste 0-0 hier. L'ancien monégasque Youri Tielemans n'a pas apprécié.
On n'a pas vraiment compris les sifflets du public. Voilà, c'est dommage. Ils sont là pour nous soutenir. Nous, on donne tout sur le terrain. Voilà, il faut rester calme, les pieds sur terre et aller de l'avant.
La Belgique défiera donc la France comme une revanche de la demi-finale de Coupe du Monde 2018, admet le défenseur Timothy Castagne.
Il y a plus de rivalité contre la France. Ça donne plus d'intensité, plus de motivation et en plus on est voisins, donc ça joue aussi.
L'attaquant de Manchester City, Jérémy Doku, se méfie d'une équipe de France que beaucoup jugent prenable.
Prenable, je ne vais pas dire ça, parce que quand vous regardez les joueurs individuellement, ben, vous voyez qu'il y a des joueurs de grande classe, classe mondiale. Même s'ils ne font pas un très bon match, il y a toujours un joueur qui peut faire la différence. On doit être vigilant quand même. On aura le temps de les analyser.
La Belgique y croit, mais arrivera dans la peau d'un outsider face à l'équipe de France.
Soirée historique pour le basket français avec 4 Français sélectionnés à la draft NBA. Les 2 premières places reviennent à Zachary Risaché qui ira à Atlanta et Alexandre Sarr qui ira lui à Washington. Un doublé inédit.
Et puis le quintet.
20h15 sur l'hippodrome de la Teste de Buch et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui c'est le numéro 3, Lorcan. L'outsider c'est le 7, Rakib. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal des Lise Dangean, on vous retrouve dans une heure pour le journal de 7h30. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Des insultes, des messages racistes sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette campagne des législatives a libéré une forme de parole raciste? Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous en avez été témoin ou même victime? Est-ce que la perspective du RN au pouvoir vous fait peur? Vos témoignages, c'est au 32-16. Et c'est Nicolas ce matin qui répond à vos appels. On se retrouve en direct dans un instant. Il y aura Nicolas Poincaré, il y aura Manu Le Chypre, il y aura Amélie Rosic, Charles Magnin et moi-même. À tout de suite.
RMC Police Justice.
Et on retrouve Julie Brault pour l'histoire du jour. Bonjour Julie.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Ce matin, direction l'hôpital de Bayeux, dans le Calvados, où une infirmière a avoué avoir versé un sédatif dans le café de ses collègues pour pouvoir enfin dormir.
Oui, une sieste forcée pour elle et ses collègues qui, au final, n'a pas été de tout repos. La semaine dernière, 2 infirmières et 2 aides-soignantes de l'hôpital de Bayeux sont tout à coup prises de malaise inexpliqué. Leur seul point commun, elles ont toutes consommé le même café dans leur salle de repos. Des analyses toxicologiques sont alors immédiatement réalisées. Elles révèlent des traces d'hypnovel, un puissant sédatif présent dans les urines des victimes, mais aussi dans la cafetière. Et coïncidence, plusieurs ampoules de ce même médicament ont disparu quelques jours plus tôt. Alors les enquêteurs passent au crible les plannings de chaque employé de l'hôpital et des recherches qui leur permettent de remonter à une infirmière de 49 ans. L'employé a été interpellé et placé en garde à vue mardi dernier. Elle a très vite reconnu les faits puis a tenté d'expliquer son geste. Elle a alors déclaré être en état de grande fatigue. Elle a donc versé l'anesthésiant dans la cafetière pour pouvoir enfin dormir, dit-elle. En revanche, elle n'explique pas pourquoi elle l'a versé dans un café qui allait être partagé avec des collègues. Pourtant, l'infirmière n'en serait peut-être pas à son coup d'essai. En 2017, déjà, plusieurs employés avaient fait des malaises similaires et inexpliqués. Finalement, déféré hier devant le parquet de Caen, l'infirmière devrait être mise en examen pour vol, empoisonnement et administration de substances nuisibles.
Le récit de Julie Brault du service police-justice d'RMC. Merci Julie.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h41, excellent réveil à tous.
À vous de nous dire.
Des militants d'ultra-droite qui ont annoncé qu'ils vont pouvoir enfin casser du PD. Ça, c'était le soir des élections européennes. Un chauffeur de bus insulté et traité de bougnoule. Ça, c'était mardi matin en région parisienne par un automobiliste qui se réclame du RN. À Avignon, une boulangerie où travaille un apprenti de nationalité malienne a été incendiée et on a retrouvé le mot « nègre » tagué sur place. C'est le parfum très rance de cette fin de campagne des législatives. Est-ce que vous constatez autour de vous une sorte de libération de la parole raciste? Est-ce que cette campagne attise les tensions? Est-ce que vous en avez été témoin? Est-ce que vous en avez été victime? Ce matin, plus que jamais, on a à cœur d'entendre vos propos, comme ça a été le cas de ce témoin ce matin, Charles.
Depuis ce matin, on écoute vos témoignages, notamment celui de Clivy, qui nous a appelé. Il habite à Saint-Ouen, mais il est inscrit dans un club de tir sportif dans l'Oise. Et Clivy nous a raconté la libération d'une certaine parole raciste au sein de ce club de tir. Écoutez.
Ils n'ont pas peur de dire que viendra un moment donné où, quand on sera prêt, on ira chercher tel type de personne, et ils ont de toutes les façons, ils pourront rien faire parce que nous, on est prêt. Ça devient de plus en plus agressif. Et je pense même qu'à un moment donné, je pourrais, parce que le centre où je suis, le centre de tir où je suis, c'est une petite association qui gère ça. Et je pense qu'à un moment donné, je pourrais plus fréquenter ce centre. Non pas parce que je ne voudrais pas, mais je pense que plus le temps passe et plus ce groupe grossit, plus ce groupe a des personnes qui valident, même dans le bureau de l'asso. Et parce que j'ai déjà été les voir plusieurs fois, et je pense qu'à un moment donné, je ne pourrais plus aller dans ce centre.
Ah, Clivy qui nous a précisé qu'il était d'origine martiniquaise et que désormais il se sentait menacé par ceux qui fréquentent comme lui ce club de tir dans l'Oise.
Et on en parle avec vous tous qui nous appelez. Il y a Fadela qui est déjà avec nous au 32-16. Bonjour Fadela.
Oui, bonjour Fadela, Apolline.
Bonjour Fadela, vous êtes infirmière dans l'Ariège et vous vouliez témoigner. On vous écoute Fadela.
Voilà, bonjour Apolline, bonjour Charles. Je vous écoute depuis ce matin, 5h, départ de ma tournée.
Ouais.
Et j'ai souhaité vous appeler. C'est pas la première fois, Apolline, que je vous ai au téléphone. Ma fille avait reçu du jambon sur la tête en 3e.
Je m'en souviens très bien, Fadela.
C'était avec le ministre de l'Industrie que j'étais intervenue.
Exactement.
Et aujourd'hui, là, je souhaite réitérer parce que, depuis le résultat des élections européennes, j'ai reçu un appel. Je suis infirmière libérale. J'ai reçu un appel et mon cabinet, il est à moi. Donc, c'est avec mon nom à consonance maghrébine. Du coup, on m'a demandé des soins infirmiers. En sachant qu'il y a pénurie d'infirmiers libéraux sur le secteur et que c'est à flux tendu tout le temps. Donc, les demandes... voilà.
Jusque-là, ça vous paraît justifié?
Voilà, et c'est compliqué d'avoir des infirmiers qui acceptent les soins de nos jours. Un monsieur m'a appelé pour me demander des soins pour son épouse, des soins assez complexes. J'ai accepté, et là, il a émis le souhait de connaître les origines de mon nom. Je lui ai dit et il m'a dit textuellement ah ben non, ça va pas être possible parce que ma femme elle a des problèmes avec ça.
Elle a des problèmes avec ça?
Oui, avec ça et avec mes origines.
Mais j'ai bien compris.
Ouais. Et du coup, je lui ai dit écoutez, appelez mes autres collègues sur le secteur, il y a pas de souci. Je suis restée professionnelle et il a appelé mes collègues autour qui ne pouvaient pas, par manque de temps, prendre en charge cette dame. Il m'a rappelé en me disant, vos collègues ne peuvent pas. Donc là, je lui ai dit, écoutez, faut pas faire la fine bouche, excusez-moi le mot, mais faut pas faire la fine bouche. Et puisque mes collègues n'acceptent pas, j'avais la place il y a 5 minutes quand vous avez appelé, mais là, je ne l'ai plus. Oui, il y a une levée d'inhibition. J'ai dit au standard... ce que j'en pensais, une levée d'inhibition. Je ne vais pas citer de nom, bien sûr, de parti, etc. mais ça désinhibe la parole et ça la valide, en fait.
Mais vous pouvez, hein, Fadela, on peut tous dire, hein, ce matin, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que vous estimez, et que c'était il y a combien de temps cet appel, Fadela?
Il y a 8 à 9 jours.
Ouais, c'est ça, donc c'était après les élections européennes. Mais après...
C'est ça, parce que là, c'était une coïncidence, parce que la personne n'est pas devenue raciste.
Mais il s'est excusé, il a dit quelque chose, ou alors c'était comme ça, point barre.
Et ben non, quand je lui ai répondu que non, je ne prendrai pas, ben du coup, il m'a dit, vous n'avez pas le droit, alors je lui ai parlé du droit, justement, de mon droit à refuser de prendre quelqu'un en soin, je n'étais pas obligée. Et il m'a parlé du conseil de l'ordre, etc. Du coup, j'ai dû mettre fin à l'appel.
Ah oui, donc il est devenu ouais, menaçant. C'est-à-dire, après avoir dit qu'il ne voulait pas que vous puissiez soigner sa femme du fait de vos origines, ensuite, c'est lui qui vous fait la leçon. Amélie, vous l'intervenez. Voilà.
Fadela, je vous pose une question. Après ce qui vous est arrivé, là, est-ce que vous craignez aujourd'hui d'intervenir à domicile? Vous êtes infirmière, vous êtes appelée, donc vous allez chez les patients. C'est une crainte aujourd'hui?
Alors, c'est une crainte, non, parce que il m'appelle, il voit le nom et le prénom sur l'annuaire quand il m'appelle. Mais par contre, oui, il y a quand même des discussions un peu houleuses depuis les élections européennes avec mes patients que je connais depuis longtemps, dits chroniques. Et récemment, là, il a fallu que j'en recadre un.
Qui vous disait quoi?
Qui me disait, il y a trop de nègres et de bougnoules en France.
Et c'est quelqu'un que vous suivez régulièrement?
Ça fait 2 ans.
Et vous avez jamais tenu ce genre de propos?
Ben non. Ouais, donc j'ai recadré bien fermement. Mais je constate quand même que partout il y a cette levée d'inhibition. Voilà. Et puis oui, moi ça me fait peur parce que comme je le disais lors d'une précédente émission au téléphone, intégrer ça veut dire quoi? On parle d'intégration, on parle de binationalité, on parle de citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que intégrer, ça veut dire qu'on paie des impôts, que l'on travaille, qu'on est, voilà. Parce que sinon, là-dessus, je pense que il y a des Français d'origine qui ne le sont pas. J'ai pas peur des mots là aujourd'hui.
Non, mais bien sûr, Fadela. Et vous en parlez avec votre fille?
On en parle beaucoup, on discute beaucoup.
Est-ce qu'elle le ressent, elle aussi? Elle est au lycée, elle vient d'entrer au lycée, non?
Elle est en seconde, elle rentre en première.
Voilà, c'est ça.
Du coup, elle a 15 ans. Toute l'année de seconde aussi, ça a été des petits mots. Et puis, juste avant la campagne européenne, ça a été pareil. On a dit le nom du politique qui se présentait, voilà. Et en cours d'histoire, pareil. En cours de géographie, quand on parle de flux migratoires, c'est pareil aussi.
Mais de la part d'autres élèves, Fadela?
D'autres élèves, oui, bien sûr. Mmh. Oui. C'est ce qui me fait peur aussi. C'est à 16 ans.
Et on l'a vu dans les dernières études, hein, c'est le racisme et l'antisémitisme, y compris dès la plus tendre enfance, c'est-à-dire dès les classes du primaire, qui sont désormais totalement débridées. Fadela, vous avez peur pour votre fille?
Clairement, oui. Je le dis parce que là, elle l'entend pas, mais oui. Voilà.
Dites parce qu'à cette heure-ci, elle dort, quoi, et donc vous osez le dire.
Oui, voilà. Et du coup, oui, j'ai peur pour son avenir. J'ai peur pour son présent parce que elle reçoit des attaques. Moi, je me suis sentie profondément humiliée lors du débat sur le thème de la binationalité.
Lors du débat entre les trois candidats au poste de Premier ministre il y a 2 jours, sur la binationalité, dites-nous, parce que tout à l'heure je reçois Sébastien Chenu, voilà des questions que je pourrais lui poser. Vous dites que vous vous êtes sentie, parce que vous avez la double nationalité, Fadela?
Oui, et je l'assume.
D'accord, voilà. Franco-quoi?
Franco-marocaine. Voilà, et je l'assume, et je suis fière de mes origines marocaines, et je suis fière d'être née en France, et de... Voilà, je suis... Mais j'ai l'impression qu'à ce jour, il faut se promener dans la rue avec un panneau. Je suis fière d'être français. Oui, bien sûr. pour pouvoir être validé, pour pouvoir... Alors moi, quand j'étais gamine, mes parents sont décédés aujourd'hui, ils m'ont toujours dit « sois la meilleure en classe ». 15 de moyenne, ça suffit pas. J'ai toujours été dans les règles, etc. Non, j'ai plus à me justifier. Stop. J'ai 47 ans, je n'ai plus à me justifier. Et j'ai pas envie que ma fille à 15 ans ait à se justifier. Je lui ai toujours inculqué les bonnes choses. Soit respectueuse, soit excellente à l'école. C'est une excellente élève, d'ailleurs, qui a 17 de moyenne générale. Voilà. Je lui ai toujours dit, la meilleure des défenses, c'est d'être la meilleure en classe.
Oui, etc. Mais ça veut dire que vous êtes encore plus exigeante avec vous-même d'abord, clair. Avec votre fille ensuite, comme si vous aviez encore quelque chose que vous deviez prouver. Fadela, merci pour votre témoignage ce matin. Promis, tout à l'heure, je le porterai aussi avec Sébastien Chenu. C'est tous vos témoignages qu'on veut entendre aussi ce matin. Entendre les craintes des uns, peut-être d'autres, au contraire, sont rassurés, mais on veut tous vous entendre. Fadela, merci de nous avoir raconté ce qui vous est arrivé. Merci d'avoir pris le temps de témoigner ce matin. Comme Fadela, vous nous appelez au 32-16. Il est 6h52.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, racontez-nous Nicolas Poincaré.
Je raconte l'histoire de ce petit triangle rouge que portait Manuel Bompard à la boutonnière à la télévision.
Et puis on avait pas osé vous en parler, Charles.
Attention, si les bleus vont loin pendant l'euro, on va tous prendre des kilos.
Pas de soucis.
RMC, Apolline Matin.
6h55, Nicolas Poincaré.
Racontez-nous,
Nicolas. Tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, c'est l'histoire d'un petit pins triangulaire rouge. C'est ce pins que portait Manuel Bompard lors du débat sur TF1.
Oui, il a été très remarqué, ce triangle rouge, que le coordinateur portait donc le coordinateur de la FI portait à la boutonnière. Certains y ont vu un signe de soutien aux Palestiniens, voire un signe de ralliement au Hamas. Manuel Bompard a balayé ses interprétations en expliquant que ce triangle était plutôt un symbole de la résistance antifasciste, en souvenir des déportés politiques dans les camps. Et l'élu insoumis rappelle qu'il le porte depuis plus de 10 ans, que ce n'est donc pas lié au conflit actuel à Gaza. Et il rappelle aussi que Jean-Luc Mélenchon le porte également souvent et depuis longtemps.
Ce qui est parfaitement juste, et je me souviens d'avoir interrogé d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon sur ce petit triangle qu'il portait il y a déjà des années, parce que c'est vrai que c'était assez surprenant, il le portait systématiquement. Alors d'où il vient ce symbole ?
Eh ben, il y a trois des histoires différentes qui n'ont rien à voir entre elles. À la fin du 19e siècle, à Paris, des ouvriers ont manifesté pour la journée de 10 heures de travail, et pour se reconnaître entre eux, eh bien, consigne avait été donnée de porter un petit triangle rouge en cuir à la boutonnière. Ce triangle est ensuite devenu un symbole donc des luttes ouvrières. Un demi-siècle plus tard, dans les camps, les nazis ont parfois imposé des signes de couleur pour séparer les prisonniers, et le rouge était pour les déportés politiques. Ce triangle rouge est donc devenu aussi un symbole de la lutte contre le nazisme. Enfin, troisième histoire, beaucoup plus récente, le mouvement palestinien Al-Qassam a publié ces dernières années des vidéos de propagande avec des triangles rouges pour indiquer les cibles israéliennes à abattre, et certains en ont donc fait un symbole de la résistance palestinienne. À la dernière cérémonie des Césars, plusieurs acteurs et actrices le portaient d'ailleurs, en indiquant bien que c'était en solidarité avec les Palestiniens. Donc, quant à la télévision, on porte, comme Manuel Bompard, ce petit triangle rouge. Eh bien, ça peut avoir trois significations: être un symbole ouvrier, ou bien antifasciste, ou bien pro-palestinien, ou bien les trois à la fois.
Merci Nicolas. Charles.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Rien à voir, mais enfin, c'est quand même bien embêtant, Charles. On est très, très embêtés. Si l'euro et les JO continuent sur cette lancée, on va grossir.
Oui, parce que le sport visionné depuis le canapé n'est pas le meilleur allié du summer body. Une étude est venue le confirmer.
Il a fallu faire en automne.
Ce sont des chercheuses grenobloises qui ont mené une expérience avec deux groupes d'une centaine d'étudiants. Il y avait deux groupes, chacun dans une salle avec un grand bol de bonbons. Et le premier groupe a regardé des vidéos de sport, l'autre groupe des vidéos sans aucune activité physique. Résultat, ceux qui ont regardé du sport ont mangé beaucoup plus de bonbons. En fait, le simple fait de regarder du sport conduit à un sentiment d'accomplissement. On a l'impression que nous-mêmes. Exactement.
Et donc, tiens, je peux prendre un bonbon.
On serait beaucoup plus indulgent avec ses propres choix alimentaires, parce qu'on a l'impression qu'on a couru, qu'on s'est dépensé, on a été à fond. Et donc, on s'autorise de plus en plus d'écart. Donc, vigilance pendant l'euro. Ne regardez pas le marathon en entier pendant les JO. C'est la pire des solutions.
Mais sans avoir eu à faire cette grande expérience scientifique, hein, vous preniez mon cas personnel.
J'ai un cobaye à côté de moi tous les matins.
Télé, beaucoup de frites. Beaucoup de frites le dernier match.
Les poules de l'euro ont été compliquées. Ouais.
Le problème, c'est que nous, on se trompe, mais pas la balance.
Allez, il est 6h58. À tout de suite. Pour la météo, Jean.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.